souhaite une excellente soirée. Au revoir.
Bienvenue à l'écoute de l'émission interactive de VOA Afrique. À votre avis, Nathalie Barge avec vous dans les studios de la Voix de l'Amérique à Washington. Au Togo, les députés ont adopté par 89 voix sur 91 une nouvelle constitution changeant le régime présidentiel en régime parlementaire. Elle prévoit un poste de président de conseil des ministres élu par l'Assemblée pour 6 ans qui aura les pleins pouvoirs. Le président de la République, qui ne disposera que d'un pouvoir symbolique, sera également élu par le Parlement sans débat pour un mandat unique de 6 ans. Ce texte marquera l'entrée du Togo dans sa 5e République. Alors, les élections législatives et régionales sont prévues le 20 avril. Que pensez-vous de l'adoption de cette nouvelle constitution ? Le régime parlementaire est-il mieux adapté à la démocratie que le régime présidentiel ? Et une petite question aussi optionnelle qu'on a posée à nos auditeurs, faut-il repenser la gouvernance en Afrique ? Alors, nous avons comme invité en ligne le professeur Théodore Olo, ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin, constitutionnaliste. Merci beaucoup, professeur, d'être avec nous.
C'est un plaisir, madame, de partager l'analyse de la situation avec vous et sur vos antennes.
Absolument, merci beaucoup. On est très heureux de vous avoir pour justement, comme vous le dites, une analyse plus en profondeur. Bon, on va essayer pas trop creuser parce qu'on n'a pas beaucoup de temps en fait. C'est une courte émission. On va tout d'abord débuter en écoutant un de nos auditeurs, la réflexion d'un de nos auditeurs, c'est Tidiane Botegueba.
Je pense que c'est une mauvaise loi qui vise à prolonger le pouvoir à vie de l'actuel président Faure Gnassingbé, car je ne vois pas l'utilité d'une telle constitution dans une Afrique là où les députés n'est que de simples exécutants des ordres venant de nos gouvernants. Dans tous les cas, si dans les pays démocrates comme les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et j'en passe, les députés sont des avocats du peuple, très malheureusement, c'est nous en Afrique, c'est tout à fait le contraire.
Bon, voilà pour débuter une réflexion d'un de nos auditeurs professeurs. Alors, qu'est-ce que cela représente pour le Togo, on va dire à l'heure actuelle, ce changement de régime, non des moindres, on passe d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. Alors, est-ce que ce serait parti d'un bon sentiment purement démocratique ou un calcul politique, comme le diraient certains ?
Vous savez que le Togo est dirigé par la même famille, aussi bien génétique que politique depuis 1967, ça fait 57 ans. Et c'est de père en fils. Déjà, ça vous donne une image de la réponse à votre préoccupation, si cela participe du renforcement de la démocratie. Le deuxième élément, un parlement monocolore n'a aucune légitimité, non seulement à réviser la constitution, mais aussi à adopter une nouvelle constitution. Parce que le changement de régime semi-présidentiel à un régime parlementaire participe de l'adoption d'une nouvelle constitution et d'une révision. Or, il y a 4 conditions dans lesquelles on peut adopter une nouvelle condition, lesquelles ne sont pas réunies aujourd'hui au Togo, à moins qu'on ne parle d'un coup d'État constitutionnel. Et cette formule vise en fait à garantir la pérennité de l'exercice du pouvoir par la même famille politique, à savoir le RPT du temps du père et l'UNIR du temps du fils. Est-ce que cela va contribuer au développement du pays ? Le développement, c'est une question de vision et c'est une question de la qualité des hommes. Ceux qui gouvernent le Togo depuis 1967 jusqu'à ce jour participent de la même vision politique puisque c'est la continuité du même parti politique, c'est les mêmes hommes ou leurs descendants qui continuent à gérer le pays. Donc on ne me dise pas que c'est la forme du régime qui permettra le développement. Ouais. Et il faudrait aussi savoir... Ah, je vous en prie, madame.
Oui,
vous avez
oui.
des préoccupations par rapport à votre auditeur. Oui.
Voilà, non, on va revenir effectivement sur toutes ces questions-là. Ces questions-là, on a bien compris effectivement. C'est un petit peu ça finalement. On a compris que tout régime peut être bien ou bon à prendre. Faut-il savoir l'utiliser correctement ? En gros, c'est un petit peu ça.
Et que les acteurs politiques et les citoyens aient la culture démocratique aussi.
Mm-hmm. Alors écoutons Fatoumata Diaraïba. Elle se bat pour la représentation politique des femmes.
Alors, d'un régime présidentiel à un régime parlementaire au Togo, et les questions que l'on se pose face à cette actualité, quelle opportunité pour ce changement? Pourquoi maintenant, à seulement un mois des législatives et un an des présidentielles? Et quel impact positif sur la vie démocratique du Togo? Et l'autre chose à souligner, c'est cette banalité à travers laquelle ils ont modifié cette constitution, et ça il faut le dire, sans que le vrai détenteur du pouvoir en matière de démocratie, qui est le peuple, puisse dire son mot. Il faut rappeler que ce changement n'est pas le moindre. On ne peut pas un bon matin procéder à un tel changement, juste pour assouvir ses désirs inavoués. De toute façon, si on voulait prendre en compte l'avis du peuple, on sait par quel moyen l'obtenir, le référendum, puisque la constitution même le prévoit. À rappeler que la majorité des élus du Parlement vient du parti au pouvoir. Et le mal, et ça c'est pas seulement qu'au Togo, c'est un peu partout en Afrique, c'est quand on dit que ces députés représentent le peuple, mais à vrai dire, tout ça c'est avant d'être élu. On le sait tous, en réalité ils se représentent eux-mêmes et défendent uniquement leurs intérêts. Et c'est à se demander à qui ça profite.
C'était la réflexion de Fatoumata Diaraye Baye, militante guinéenne. Alors, professeur Théodore Olo, vous avez entendu la question du référendum. Hein. Il y a dans beaucoup de pays des référendums. Il me semble qu'il y en avait eu en France en 1962 aussi, justement pour choisir ou non un régime, donc le suffrage universel.
Pour passer d'un régime parlementaire, un régime semi-présidentiel, voilà. Puisque de 58 à 62, le président a été élu par un collège électoral, et après la révision de 62, il est élu au suffrage universel direct, ce qui fait qu'il a une légitimité qui émane de la volonté populaire, et il est en compétition avec un premier ministre qui peut ne pas être de son bord politique, ce qui fait que ça cause une diarchie qui est préjudiciable à la vision et à la mise en œuvre d'une certaine politique. Ce qui fait que ce type de régime ne permet pas souvent la cohésion quand il n'y a pas le même parti politique qui contrôle le Parlement et le même parti politique ou la même alliance politique qui contrôle le pouvoir exécutif pour que l'exécutif ait les moyens au niveau du Parlement pour mettre en œuvre son projet de société par le vote des lois et le vote du budget. Et comme il a été dit, généralement, sans culture démocratique, le peuple ne fait pas un choix fondé sur le projet de société, sur la viabilité de ce projet de société, sur une gestion qui tient compte de cette préoccupation à lui, mais par proximité géographique, par proximité ethnique ou par la corruption, la distribution de l'argent. Parce qu'on parle généralement du gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Par le peuple, c'est l'élection. Mais pour le peuple, c'est œuvrer pour la prospérité collective. C'est garantir la liberté des citoyens et sa dignité. Mais souvent, une fois que le vote est terminé, on ne cherche plus à savoir si le gouvernement travaille pour promouvoir l'intérêt général.
Alors justement, professeur, dans ce cas-là, madame, est-ce que selon vous, il aurait fallu, par exemple, organiser un référendum pour demander l'avis de la population?
Madame, je vous ai dit que ce Parlement n'a aucune légitimité, non seulement pour réviser la Constitution, mais pour adopter une nouvelle Constitution. D'abord, ce Parlement a déjà dépassé le terme de son mandat constitutionnel. Deuxièmement, le Parlement est composé uniquement de partis unis, puisque l'opposition avait boycotté, contre les conditions qui étaient faites, l'élection qui a permis d'avoir ce Parlement. Troisième élément, la Constitution est le statut de l'État, ce qui veut dire que c'est le pacte social de vivre ensemble. Et par conséquent, lorsqu'il s'agit d'adopter une nouvelle constitution avec un parlement qui n'est pas représentatif du peuple, c'est le référendum qui est la voie la plus indiquée. La preuve dans la constitution togolaise, il est dit que si la révision n'intervient pas avec les trois quarts des citoyens, des membres du parlement, on procède par référendum, à condition qu'il y ait les deux tiers et qu'il y ait au moins la moitié qui approuve le principe de la révision. Déjà pour la révision. Et quand il s'agit d'adopter une nouvelle constitution, comme c'est un nouveau pacte qui sera scellé, il vaut mieux aller directement au référendum.
Merci beaucoup pour la réponse, professeur. On retourne au Togo pour écouter Fernandez Toyou.
Le régime parlementaire en lui-même est une très bonne chose. Lorsque nous prenons un peu les pays comme l'Allemagne, l'Afrique du Sud et autres, nous savons ce que cela donne. Il y a beaucoup de pays qui expérimentent ce système très viable. Mais le problème chez nous, c'est qu'on a fait cela pour un objectif, pour pérenniser le pouvoir de quelqu'un. si ce qu'on veut vraiment dire qu'on a changé, on peut faire de sorte à ce qu'au niveau de la majorité parlementaire, par exemple, le chef du parti soit changé. Et à ce niveau-là, on va vraiment savoir que oui, on est sincère avec ce qu'on fait. Donc, la gouvernance en Afrique, est-ce qu'elle doit changer? Et bien évidemment, on ne doit pas faire des choses calquées sur les modèles occidentaux. Je crois que nous devons dépasser ces paradigmes-là, dans la mesure où aujourd'hui l'Afrique commence à prendre une certaine ascension fulgurante. C'était Fernandez Toyo depuis Sokoto, Togo. Merci la VOA.
Professeur Théodore Olo, alors vous avez entendu, est-ce que justement vous pourriez nous citer un des cas particuliers de régime parlementaire en Afrique, hein, sachant qu'il y en a qui sont liés à un régime présidentiel et non, on a le cas notamment de l'Afrique du Sud, du Botswana, et on a Maurice, on a l'Éthiopie, des cas en fait qui, selon vous, fonctionneraient bien.
Écoutez, je vous ai parlé tout à l'heure de culture politique et de culture démocratique. Je vais d'abord commencer par votre pays, les États-Unis, qui en 1787 était constitué de 13 colonies rurales, qui étaient dominées par la Grande-Bretagne. Régime présidentiel, aujourd'hui, est la première puissance économique, politique et mondiale. Ce qui veut dire que ce n'est pas simplement la nature du régime politique, mais c'est la qualité des hommes, la vision qu'ils ont pour l'avenir de leur pays. Vous pouvez avoir théoriquement le plus beau des régimes, mais si ceux qui sont chargés de l'animer n'ont aucune conscience de l'intérêt général, vous serez toujours dans la difficulté. Il y a des pays où la démocratie fonctionne, par exemple l'île Maurice, qui pratique le régime parlementaire. Mais vous avez l'Afrique du Sud, qui a été cité, puisque le président est élu par le code, n'est pas élu au suffrage universel direct, c'est au niveau du Parlement que ceci intervient. Cela donne de bons résultats parce qu'il y a des hommes qui ont conscience, qui sont là pour servir le peuple et ne pas se servir. Or, très souvent, nos gouvernants pensent que le pouvoir est une prime pour leur propre prospérité, pour leur propre enrichissement, d'où le développement de la corruption. C'est cela qui fait que les investissements sont détournés au profit de quelques-uns au lieu de servir à créer les conditions du mieux vivre pour la majorité ou pour l'ensemble des citoyens. Donc c'est d'abord une certaine culture politique, une certaine conception de la mission que l'on a en tant que gouvernement. On ne peut pas me dire parce qu'on a mené un régime parlementaire, tout sera beau si les hommes qui sont chargés d'exercer le pouvoir, n'ont pas cette conscience politique.
Ah oui, on l'avait très bien compris, professeur. Restez avec nous, on va écouter encore deux auditeurs. On va aller au Sénégal, ensuite au Burkina Faso. Écoutons d'abord Mamadou Ouribari et ensuite on écoutera Charles Bazema.
Je pense que cette idée de la part de ces députés est à saluer. Il faut quand même exploiter cette manière aussi de gouverner et pour savoir est-ce que cela ne résultera pas plus que meilleur par rapport au régime présidentiel. Car nous avons vu, quand même, le régime présidentiel n'est pas favorable à beaucoup des États sur le continent, à l'exception de quelques pays. Ce sera aussi une manière de réduire, quand même, les pouvoirs qui détiennent ces présidents-là au niveau de nos États. Maintenant, il reste quand même à savoir que ce soit quand même des parlementaires qui représentent le peuple, qui ne sont pas là juste pour pérenniser quelqu'un au pouvoir. Mais quand même, vu que le président qui sera élu issu de ce Parlement ne fera que 6 ans seulement et c'est l'unique, il n'a pas une seconde chance, je pense que c'est très bien déjà.
Oui, il faut repenser notre gouvernance en Afrique parce qu'il n'y a que du désordre dans la gouvernance en Afrique. La corruption, la gabégie, le népotisme, l'injustice, tout ce qui va à l'encontre de la bonne gouvernance se trouve dans nos régimes et africains. Je crois qu'il faut revoir même la manière de faire. Il faut tout mettre à zéro. Et je crois que le Togo est sur la bonne voie. Moi, j'ai toujours milité pour un régime parlementaire et un régime et ces genres de régime où on fait plus d'économies. À mon avis, sur le plan financier, il y a plus d'économies. Les régimes présidentiels, tout est concentré dans la main d'un seul individu qui est le président, qui a la vie ou la mort des citoyens, voilà, qui fait ce qu'il veut, et après, il vote des lois pour s'avancer. Mais quand nous voyons les régimes parlementaires, où ça peut être même la base d'une vraie démocratie, à mon avis, la population saura qui choisit comme député pour le représenter à l'Assemblée nationale. Et je crois que c'est le moment de lutter contre l'achat de conscience. Mais je crois que cette loi ne doit pas être une opportunité au régime, au pouvoir, d'en profiter. Non.
Alors, vous avez entendu, professeur Charles, justement, là, il a évoqué finalement le fait que, ben oui, au niveau de la population, elle devrait faire plus attention pour qu'elle vote, hein, d'une manière générale. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, cela dépend de la mentalité démocratique que l'on a effectivement.
De la culture politique et de la culture démocratique. Parce que, aujourd'hui, avec la nouvelle constitution, en réalité, l'essentiel du pouvoir ou l'ensemble du pouvoir est concentré entre les mains du Premier ministre, qui est d'abord le chef du gouvernement qui détermine et met en œuvre la politique de l'État, mais encore il est le chef de la majorité ou de la coalition parlementaire qui contrôle le Parlement. Ce qui veut dire qu'il a entre ses mains et le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Alors que le régime présidentiel, comme c'est le cas aux États-Unis aujourd'hui, peut se traduire sur une culture démocratique, que le président soit de notre bord politique, tel qu'aux États-Unis, avec le président Joe Biden, qui est démocrate, et le Parlement, la Chambre des représentants aux États-Unis, qui est dominée par les républicains. Ronald Reagan, quand il était président, il est républicain, mais le Congrès était à majorité démocrate. Ce qui fait qu'il faut négocier et trouver un compromis qui se rapproche de l'intérêt général. Tant qu'il n'y a pas cette culture démocratique, que vous avez un régime parlementaire ou un régime démocratique ou un régime présidentiel, vous allez vivre les mêmes difficultés que nous connaissons en Afrique. Est-ce que nos citoyens sont éduqués à la gestion, aux règles de fonction d'une démocratie, aux exigences de l'état de droit? On sait le cas de l'Allemagne, mais en oubliant que les partis allemands, en 1949, lorsque les trois zones d'occupation françaises, américaines et anglaises ont été créées, et qu'on a imposé une nouvelle constitution en 1949, les différents partis politiques ont des fondations pour l'éducation de leurs militants, des laboratoires et d'idées, ce qui fait qu'il y a eu un apprentissage du fonctionnement de la démocratie et les citoyens votent par rapport à leurs intérêts, par rapport au projet qui est capable de leur assurer un mieux-être que par rapport à l'argent qui est distribué. Et je dis qu'aujourd'hui, la culture politique, tant que nous n'avons pas fait cette éducation, se traduira par le fait que ceux qui sont au pouvoir vont payer, non pas des électeurs, non pas des citoyens, mais des clients qui vont leur permettre d'aller au sommet de l'arbre. Mais il faut qu'ils soient au sommet de l'arbre. Ils oublient ceux qui sont en bas et les fruits, ils les conservent pour eux-mêmes. Quand un peuple est déterminé, il arrive à obtenir de bons résultats, comme le Sénégal veut de nous en donner et l'exemple.
Oui, alors...
Et pourtant, ce n'est pas un régime parlementaire au Sénégal.
Ouais. Alors, on va revenir donc sur notre sujet après avoir écouté deux autres auditeurs. C'est Archeduc Théodore qui est au Tchad. Et ensuite, on écoutera en Côte d'Ivoire Youssouf Ouedraogo.
J'adore cette initiative qui permet de limiter les fonds levés pour financer les élections présidentielles. Sauf que l'inconvénient est qu'il aura même mis sur certains parlementaires qui seront obligés de voter pour le parti au pouvoir, ou dès lors que le parti au pouvoir est une majorité de députés à l'hémicycle, ce parti va toujours continuer par gagner les élections. L'avantage en est que les dépenses liées aux élections présidentielles seront diminuées, certes, mais c'est le parti au pouvoir ou bien le parti qui aura la majorité au Parlement qui va nettement en profiter, parce que si la majorité de ces députés votent pour celui-là qui a cette majorité, c'est sûr et certain que ce dernier deviendra le président de la République.
Alors, ce mécanisme est beaucoup plus à l'avantage du président Fonia Singe, qui totaliserait 20 ans de règne à l'issue de son dernier mandat et qui pourrait donc espérer remplir pour 6 années supplémentaires comme le stipule cette révision constitutionnelle. Alors, le problème de l'Afrique n'est ni le régime politique, encore moins le mode de gouvernance. Nous avons ici en Afrique un véritable souci avec le respect des textes, à telle enseigne que la révision constitutionnelle par procuration égoïste devenu le sport favori des dirigeants. Je pense pour ma part que la limitation des nombres de mandats constitutionnels n'est pas une nécessité absolue pour les États en voie de développement. Ce qui vaut pour l'Europe n'est pas forcément une nécessité absolue pour l'Afrique. Nous sommes un continent avec une diversité culturelle et identitaire. C'est un facteur essentiel longtemps ignoré à prendre en compte.
Alors voilà, donc on a écouté deux auditeurs, professeur Théodore Holo. Je vais vous poser une question de néophyte. Hein. Alors pourquoi conserver le poste de président de la République s'il n'est que symbolique, hein, ce titre honorifique, on parle même de présidence cérémoniale, autrement dit, quel est son rôle?
Ce rôle est en réalité d'incarner l'unité nationale. Il est vrai, cela a été hérité de la Grande-Bretagne, le monarque règne, mais ne gouverne pas, ce qui veut dire qu'il garantit la continuité de l'État. Ça a été le cas également en Thaïlande. Vous avez des difficultés, les gouvernements qui changent, mais le roi est là et qui incarne l'unité. Donc ce rôle, non seulement il inaugure les chrysanthèmes, mais il est le symbole de l'unité, puisque c'est le parti majoritaire qui exerce au Parlement, qui exerce le pouvoir exécutif. Mais le président doit incarner non seulement les intérêts de la majorité, mais aussi de l'opposition, même si, de la minorité, même s'il n'a aucun moyen de pression physique, mais moralement, il est la référence. On oublie souvent que la démocratie n'est la loi de la majorité que dans le respect des droits de la minorité de l'opposition. Et le président de la République, dans ce genre de régime, parce qu'il incarne l'unité nationale, doit attirer nécessairement l'attention sur la nécessité de prendre en compte aussi les préoccupations de la minorité qui participe de la nation dont le président de la République est l'incarnation. Donc c'est un élément qu'il faut prendre en considération, même s'il a été élu par le Parlement, généralement, c'est le parti majoritaire qui arrive à faire élire en réalité celui qui va jouer ce rôle. Mais il doit dépasser le parti ou les partis qui l'ont élu pour ne tenir compte que de l'unité nationale qu'il est censé incarner. Mais là encore, il faut qu'il ait cette culture politique.
Merci beaucoup à bon entendeur. Professeur, restez avec nous. Avant de refermer avec vous, on va écouter d'abord Alpha Wambuyu. Il est en République démocratique du Congo.
Si j'essaie un peu de voir en rapport avec la configuration de ces nouveaux régimes, les députés ont joué à une très bonne carte parce qu'ils savent que chaque fois les présidents africains ont tendance à dominer, sachant déjà qu'ils seront élus par le peuple. Mais comme ce sont eux maintenant qui seront aux commandes, il faudra à tout prix que les Africains prennent conscience. Voilà, parce que si réellement on veut à ce que l'Afrique aille de l'avant, on doit mettre de côté tout ce qu'il y a comme antivaleur, toutes les mauvaises pratiques. Parce que les députés d'abord eux-mêmes là, ils sont là pour leurs propres intérêts. Mais leur ajouter encore ces avantages, c'est aller très loin.
Alors, professeur, vous avez parlé tout à l'heure notamment d'une monarchie constitutionnelle. Alors, sur 205 pays, on a environ 63 régimes présidentiels, 43 régimes parlementaires, 29 régimes semi-présidentiels, 29 monarchies constitutionnelles et bien d'autres types de régimes. Très rapidement, pour finir, professeur, justement, alors, est-ce qu'il faut repenser les systèmes de gouvernance, ceux qui pensent qu'il faut adapter à l'Afrique tel système? Est-ce qu'il y a un système idéal? Est-ce qu'on doit adopter des régimes et constitutions taillées sur mesure ou des modèles plutôt calqués et adaptés?
Je crois qu'il faut d'abord définir ce que c'est que la démocratie. Chacun veut vivre en liberté. Nous ne sommes plus des sujets aujourd'hui. Que l'homme soit noir, blanc, qui vive en Europe, aux États-Unis, ou en Asie, ou en Afrique, il a le même souci de dignité. C'est d'abord cet élément d'unité qu'il faut prendre en compte et ne pas dire qu'il y a un régime spécifique pour les Africains, un régime spécifique pour les Européens. Il est vrai, les Européens ont expérimenté ce modèle depuis plus de 2 ou 3 siècles. Les Africains viennent de commencer ce modèle auquel ils n'étaient pas habitués. Ce qui fait que nous ne serons pas au même niveau d'application de ce type de régime. Mais c'est un régime qui garantit la dignité de la personne humaine. Et c'est cela qui me paraît être l'essentiel. Nous n'allons plus retourner en Afrique où c'est le chef qui décide de tout sans que le sujet n'ait rien au choix du monarque, n'ait rien à dire par rapport à la manière dont le travail est fait.
Aujourd'hui, le citoyen, non seulement il peut élire ses gouvernants, les changer au bout d'un certain temps s'il ne lui donne pas satisfaction, mais qui puisse jouer ce rôle pour savoir que le pouvoir qui est là est à son service parce qu'ils sont payés par les impôts que lui, il paie, il faudrait qu'il ait une culture politique.
Merci beaucoup, professeur. La culture politique, le plus important, on l'a bien compris. Je rappelle que vous êtes Théodore Rollot, ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin, constitutionnaliste. Avec vous, c'était Nathalie Barge, à la production Michel Joseph. Bonne continuation pour la suite de nos programmes.